Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes en presque direct de la fête de la science à l'hôtel de ville de Tours. Nous poursuivons nos conférences avec des chercheurs qui s'intéressent aux émotions. Donc cette émission a lieu en public face à un public nombreux, passionné et captivé. On vous remercie d'être là si nombreux pour nous écouter. Donc cette deuxième table ronde s'intéressera aux émotions et à la musique. Et alors, pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau David Christoffel. Bonjour David.
Bonjour.
Alors, est-ce que c'est juste si on dit David Christoffel est musicologue et auteur d'opéra Paris ?
Oui, c'est tout à fait juste, oui.
Alors, je crois que tu travailles aussi beaucoup pour la radio.
Oui, je produis l'émission Métaclassique qui passe sur Radio Campus Tours chaque semaine.
Oui, tout à fait. C'est quoi Métaclassique ?
Comme son nom l'indique, c'est d'aller au-delà de la musique classique. Donc ça veut dire de partir de la musique classique et d'arriver parfois ailleurs. Et donc c'est de faire des trajets qui circulent comme ça dans les répertoires musicaux et qui essayent de penser les ponts. Et c'est ce qui amène à des formes radiophoniques variées. Ça peut être des entretiens avec des musicologues, des historiens de la musique, aussi des philosophes ou bien des expériences, sous forme de création radiophonique, notamment avec des étudiants.
Voilà, est-ce qu'on peut dire que tu t'approches de la science participative ?
En quelque sorte, oui, puisque quand il s'agit de mener une expérience de pensée à plusieurs, il y a bien la production d'un savoir qui se fait oui, de façon participative, de fait.
Voilà. Et alors, est-ce que l'idée d'être un médiateur scientifique, ça t'intéresse ou ça te vexe ?
En fait, médiateur me suffit. Moi, je trouve que le mot médiation, il est déjà bien plein. Donc, moi, de fait, je suis plus souvent en position de médiation musicale que de médiation scientifique, mais comme il s'agit d'être dans une démarche qui désépare quand même la pensée de la musique de la science, ça peut marcher.
Ça peut marcher. Donc, cette table ronde, cet échange s'appelle Out Musica Emotion. Donc, je vois qu'il y a des personnes devant la porte. N'hésitez pas à rentrer si vous le souhaitez, on en sera très content. On se demandait la musique suscite les émotions ou peut-être est-ce que ce sont les émotions qui permettent de créer de la musique. Donc voilà, de tout temps, les hommes ont traduit les émotions par la musique. Qu'est-ce que tu aimerais dire de ça, de cette approche historique, David ?
Qu'il y ait un pouvoir émotionnel de la musique et que l'on joue avec aussi plus ou moins de succès, c'est effectivement indéniable et historiquement attesté au moins par les discours. Et quand on fait des théories de la musique dans l'Antiquité, on répartit les musiques précisément du point de vue des émotions qu'elles sont en mesure de procurer. Si on prend l'exemple de la République de Platon, il y a des pages qui nous expliquent que la musique rythmée, c'est une musique qui est faite précisément pour donner de l'ardeur et par conséquent, c'est une musique qu'il faut encourager pour notamment donner du cœur à l'ouvrage aux soldats, tandis qu'il faut, dit Platon, se méfier de ce qu'il appelle les musiques féminines, c'est-à-dire celles qui ramollissent l'âme et qui nous exposent à des émotions que l'on maîtrise un peu moins. Et par conséquent, il y a derrière cette hiérarchie des musiques aussi un projet d'ordonnancement des émotions.
Les émotions qu'on maîtrise moins seraient donc féminines ?
Alors ça c'est le problème, oui, en effet, c'est que les mots masculins et féminins, je m'étais amusé à faire une espèce d'historique de la discrimination masculin-féminin dans les discours sur la musique, et l'exemple que je viens de citer était évidemment un des plus emblématiques de l'époque, mais ça a eu quelques répercussions, enfin ça a continué, après on a continué à parler même de rimes féminines et de rimes masculines en poésie, on a parlé dans les théories de la sonate au début du 19e siècle de thèmes masculins et de thèmes féminins, et c'est ce dont s'emparent les musicologues féministes, notamment américaines aujourd'hui, pour dire qu'il y a quelque chose de paternaliste qui circule, y compris dans ces conceptions de la musique.
Alors, comment dire, il existe aussi, tu en parles dans l'ouvrage qu'on a ici, je crois, d'un catalogue d'émotions voilà, et de Rossini. Alors, est-ce que tu voudrais nous éclairer là-dessus ?
Oui, parce que en fait, c'est, enfin, moi, le premier vraiment catalogue d'émotions attaché à des morceaux qui pourraient, alors, je parle au conditionnel, parce que ça suppose quand même une façon de concevoir le pouvoir émotionnel de la musique qui, par définition, alors à ce moment-là, devient normatif. C'est Stendhal donc qui fait qui entreprend l'idée, même s'il l'amène pas à bout, de classer les différents airs d'opéra de Rossini, puisque c'est un compositeur qui compte spécialement pour lui, du point de vue des émotions qu'elles procurent. En fait, il rêverait d'avoir, alors c'est un mot qui est anachronique quand on parle des années 1820-1830, mais quand même d'avoir une sorte de jukebox dans lesquelles on pourrait choisir les airs d'opéra en fonction des émotions visées ou des émotions qu'on serait censé ressentir à leur contact.
Je crois qu'il y a un extrait que tu voulais nous faire écouter, donc on va l'écouter, comme ça tu pourras nous expliquer ensuite de quoi il retourne et pourquoi tu as souhaité nous faire écouter ceci. Voilà, donc on vient d'écouter un extrait musical. David, Christoffel, de quoi s'agit-il ?
Près du troisième acte de l'opéra Moïse de Rossini, c'est un passage connu sous le nom de la prière des Hébreux. Et ça m'intéresse parce que dans sa vie de Rossini, Stendhal rappelle qu'il avait été marqué par un certain Cotugno, qui était médecin de Naples et qui faisait à Rossini le compliment d'être, alors je cite le livre du coup, assassin pour la bonne quarantaine d'attaques de fièvre cérébrale nerveuse dont avaient selon lui été victimes des jeunes femmes trop éprises de musique à la suite du changement de ton dans cette prière des Hébreux. Le changement de ton, c'est quand dans un morceau de musique on passe d'une tonalité à l'autre, et que soupçonne donc ce médecin et Stendhal à sa suite, c'est que au moment de ce changement de ton, il y a quelque chose d'émotionnellement si fort qu'on pourrait carrément tomber en pamoison ou s'évanouir complètement. Et ce qui est curieux, enfin ce qui est intéressant, c'est que dans des théories plus récentes, comme celle de Psyché Louis, qui a eu beaucoup de retentissement parce que c'est elle qui a dit que le deuxième concerto pour piano de Rachmaninov pouvait donner des frissons, elle a été jusqu'à repérer que c'est justement au moment de la modulation, donc d'un changement de ton comparable, que l'émotion est la plus tellement forte qu'elle est même attestée physiologiquement.
Donc Rossini produit des hystériques ?
Le fait est que à cette époque-là, les médecins regardaient les effets de la musique sur le public de façon très différenciée entre les hommes et les femmes. Oui.
Mais est-ce que cet effet, il a été ensuite trouvé, disons, chez des humains hommes?
Oui, alors quand je cite pour le coup Psyché Louis, qui est une étude beaucoup plus récente sur les effets de ce concerto de Rachmaninov, là pour le coup c'est sur un public mixte qu'on a testé sans pouvoir faire de discrimination homme-femme.
Voilà, et donc on peut se demander aussi, donc là une musique qui permettrait en tout cas à certains humains d'entrer en pamoison, mais aussi des fois la musique, on dit une musique joyeuse. Enfin, on attribue l'idée de joie à une musique. Alors, c'est quoi une musique joyeuse ?
Moi, je ne sais pas le dire justement parce que je soupçonne que à partir du moment où on classerait des œuvres par émotion, on aboutirait à un rapport à la musique qui serait automatique, c'est-à-dire que ce serait comme un effet chimique, soit d'anxiolytique, vraiment cette espèce de rêve d'une pharmacie musicale. Alors qu'il me semble que tout auditeur, tout mélomane peut faire l'expérience en écoutant une musique de pas ressentir forcément la même chose à chaque fois, de ne pas ressentir forcément la même chose sur le même morceau que son voisin, et que par conséquent, il y a tout un tressage comme ça, très subjectif, qui se fait avec les musiques qu'on écoute, qui fait que ça me paraît en fait impossible de dire que telle ou telle musique est joyeuse, même si il y a effectivement un certain nombre de tentatives de compositeurs pour faire que on recueille toutes les recettes disponibles et recensées pour faire qu'une musique serait plus joyeuse ou festive, par exemple, que d'autres.
Donc, c'est-à-dire que c'est le contexte culturel, peut-être, qui attribue à une musique le caractère de joie ou de festif.
En tout cas, le contexte social, c'est-à-dire la façon dont on travaille collectivement l'émotion par rapport à une musique. Ça me rappelle la remarque de Gilbert Rouget, qui est un ethnomusicologue qui... alors c'est intéressant parce qu'il est plus ethno que musicologue, où justement il va s'intéresser davantage au phénomène social qui se passe autour d'une musique de trance, par exemple, pour constater que finalement toute l'incitation collective qu'il y a à rentrer en trance dans une séance de trance avec tambour chamanique, par exemple, est peut-être plus déterminante que le pouvoir pris par le tambour chamanique lui-même, tant et si bien que pour lui... c'est bien le contexte social plus que la musique qui va faire la transe.
Donc en fait, on nous prescrit, il y a des prescripteurs musicaux peut-être de musique joyeuse. On nous indique ça, c'est une musique joyeuse, c'est de la manipulation.
Ça devient une manipulation quand ça a une visée comportementale effectivement ciblée. On pourrait citer l'exemple de la musac, par exemple, qui est de la musique qui entend flécher l'humeur dans laquelle ça va mettre, par exemple, une collectivité au travail, puisque c'est dans cet esprit qu'avaient été développées dans les années 50 des musiques qui devaient stimuler, si ce n'est la bonne humeur, en tout cas l'ardeur à bien travailler.
Alors on va écouter un second extrait musical choisi par tes soins.
Thank you.
Alors c'est quoi ce qu'on vient d'entendre ?
C'est de la musique conçue pour rendre le quotidien plus agréable à ceux qui reçoivent ces stimuli, mais c'est de la musique d'ambiance, où des fois on parle aussi d'élévateur musique, enfin de musique d'ascenseur. C'est fait pour huiler l'humeur au quotidien. Mais en fait, ça va être exactement avec ce genre de raisonnement, par exemple, qu'on a thématisé ce qu'on appelle l'effet Château Lafitte, c'est-à-dire le fait que avec de la musique, on va avoir l'impression que le vin est meilleur que sans musique. Et donc ça va déclencher tout un tas d'observations comme ça, statistiques, où on regarde si à prestations gastronomiques égales, des clients d'un restaurant vont être plus généreux en pourboire dans un restaurant où il y a de la musique romantique, par exemple, que dans un restaurant où il n'y a pas du tout de musique, ou bien où il y a de la musique métal, par exemple. Et c'est comme ça qu'on va tirer des conclusions, à se dire, ah bah finalement la musique romantique va rendre plus généreux, ou plus altruiste, ou plus heureux, ou plus ceci, ou plus cela. Voilà, c'est toujours un jeu d'observation qui a tendance à prendre des moyennes statistiques pour les faire varier vers des normes, à dire, ah bah voyez, finalement il suffit de mettre de la musique romantique pour qu'un tel devienne plus généreux, ce qui en fait n'est jamais vrai de façon mécanique.
Et alors, qui confectionne ce genre de musique ?
Alors là, en l'occurrence, c'est une société qui s'appelait Musac, qui s'était complètement spécialisée dans un répertoire qui devait épouser une courbe des humeurs qui était programmée. Donc, par exemple, on s'était aperçu qu'entre 10h et 12h du matin, les employés d'un bureau étaient moins productifs. Donc, on allait leur mettre de la musique un petit peu plus élevé en tempo, un peu plus euphonique dans les harmoniques par exemple, et on allait ensuite regarder comment avec Musac leur courbe de productivité se trouvait augmentée par rapport à leur activité dans un bureau sans musique.
Voilà, donc la musique au service du capitalisme triomphant.
Oui, bah, c'est-à-dire aussi au service d'une idéologie du bonheur, parce que ce qu'on vient d'entendre, c'est une image du bien-être qui est un peu datée, parce que là on a choisi un extrait qui date des années 70, mais qui est encore à l'œuvre, évidemment, dans les mood playlists, dans tout ce capitalisme sonore, en fait, qui effectivement grouille dans le classement émotionnel des œuvres musicales. En fait, on peut se rappeler aussi que Edison, quand il avait créé le phonographe, avait accompagné son brevet d'invention d'un certain nombre de fonctions que le phonographe pouvait remplir. Alors parmi les premières fonctions, il y en avait une qui l'occupait beaucoup, qui était l'idée d'archiver la voix des morts. Ça, c'était une des choses qui était vraiment importante pour lui aussi, parce qu'il y avait tout un pendant spirit dans la pensée d'Edison. Mais quelques années après, dans les années 1910-1920, il avait été sollicité par des industries américaines pour effectivement concevoir des disques de musique joyeuse, des disques de musique triste, enfin de disques comme ça répartis par humeur, dans l'idée que la musique puisse devenir prescriptive d'émotions.
Et alors, c'est quoi une mood playlist ?
C'est ça, c'est une playlist où on répartit les morceaux par humeur. Ceci dit, là, on est en train de dénoncer les gros méchants capitalistes qui veulent effectivement nous dicter des émotions en utilisant la musique pour ça. Mais il y a une sociologue qui s'appelle Tia Denora qui a remarqué dès lors qu'on a beaucoup consommé de la musique par peer-to-peer, on s'est mis soi-même en tant que consommateur à se faire un petit dossier happy sur son ordinateur, et que avant que les grosses plateformes comme Spotify, Deezer et tout ça s'occupent de ça, il y avait déjà de la part des internautes une tendance à classer leurs fichiers musicaux par humeur. Donc il y a aussi quelque chose de participatif là-dedans. Même si je pense qu'on a tous fait l'expérience de ce que des morceaux qui nous donnent une espèce de peps le font pas de façon complètement régulière et systématique.
Alors, les playlists les plus fréquentes, c'est quoi ? C'est pour être joyeux ? C'est quoi les émotions qui sont les plus recherchées ou tentées, en tout cas ?
Alors, après, ça peut être beaucoup pour être associé. Enfin, c'est des émotions qui sont associées à des activités. Donc, c'est en ça que ça rejoint l'hypothèse que c'est quand même capitalistiquement encadré. C'est-à-dire que donc, ça va être la musique pour faire le ménage, par exemple, ou bien la musique pour se concentrer, pour bien étudier, ou bien, évidemment, la musique pour s'endormir quand on est stressé, ou... c'est vraiment des musiques qui nous mettent dans des sphères émotionnelles dédiées à une espèce de progression. Enfin, c'est de ce point de vue-là très, très connexe avec le développement personnel, avec cette, Parce que Eva Illouz appelle le capitalisme des émotions.
Voilà, donc on veut faire de l'humain augmenté.
En tout cas, émotionnellement hyper contrôlé ou auto-contrôlé. Enfin, qui sait, un humain qui sait où il va émotionnellement et qui écoute de la musique en ayant presque décidé avant d'écouter là où ça le devait mener, là où ça doit le mener émotionnellement. Et moi, c'est ça qui a fait que je me suis arrêté sur ces questions-là, c'est que c'est tellement pas le rapport que j'idéalise avec la musique où, moi, j'aime assez soit être surpris émotionnellement par ce que j'entends musicalement, soit au moins pouvoir faire un parcours qui est complètement libre, enfin, que je ne sache pas forcément où m'emmène émotionnellement telle ou telle œuvre.
Donc tu n'as pas de mood playlist ?
Non, je n'ai pas de mood playlist. Je dois résister pour ne pas en avoir.
Mais tu résistes quand même, donc c'est-à-dire que l'idée de t'a traversé d'enfer ?
Non, mais en fait, je soupçonne des raisonnements pas loin de ça quand je me branche soit sur une plateforme musicale, soit quand je mets le casque, que je branche un casque sur mon smartphone, c'est que je me pose la question qu'est-ce que je vais écouter et circule un petit peu la question adjacente qu'est-ce que j'ai envie de ressentir dans ce que je vais entendre. Et là, il y a une espèce d'auto-parésitage où je mets, quand je fais ce type de raisonnement, la musique en position d'être un peu la clochette devant le chien de Pavlov, quoi. C'est-à-dire de me faire saliver d'une salive que je choisirais, quelque chose comme ça.
Et alors, justement, tu nous as choisi un autre extrait. Alors là, je crois qu'on revient sur l'injonction à la joie, une musique de joie, une musique qui serait peut-être dans une mood playlist pour être un battant. C'est quoi ?
Bah, c'est carrément une musique qui a le titre de la mood playlist par excellence, c'est-à-dire Happy.
Happy, bon, et c'est là, qui est cet artiste ?
Pharrell Williams.
En avant la musique. Donc on vient d'écouter un extrait de Happy, de Pharrell Williams. Bon, je ne sais pas si l'assistance se sent plus heureuse.
Ça donne l'impression d'un petit scepticisme, parce que on voit bien que l'assistance ne veut pas se laisser prescrire le bonheur qu'on a annoncé avant. Et en fait, il suffit d'avoir un tout petit discours critique sur ce qu'on fait quand on manipule ce genre d'objets musicaux pour que tout de suite la joie dégagée soit moins évidente. Et le fait est que moi, quand j'entends cette musique, je vois des espèces de lip dub, d'élèves de lycée qui s'autofilment dans des positions qui miment le bonheur de façon hyper artificielle. Enfin j'entends vraiment toute la société du selfie, c'est-à-dire un bonheur dans lequel on se projette et qu'on a besoin de prendre en photo pour le produire, en fait.
Pour le prouver, peut-être ?
Oui, mais peut-être pour le créer vraiment. Hein. Je dis pas que le bonheur que ça peut procurer est un faux bonheur, hein, mais en tout cas, c'est un bonheur fabriqué.
Et alors, est-ce qu'on peut fabriquer de la tristesse ? Parce que là, on s'attaque quand même depuis tout à l'heure au bonheur, à l'idée de l'efficacité au travail. Est-ce peut-être qu'il y a des gens qui ont envie d'être tristes, ou alors d'avoir en tout cas de la musique raccord avec ces émotions-là ?
Et ça, moi, ça me fascine. C'est-à-dire que, en effet, il y a des musiques dans lesquelles on se plonge dans une tristesse qui devient volontaire, ce qui Enfin, c'est pas la même chose, effectivement, d'essayer d'avoir un bonheur volontaire et de se plonger dans une tristesse qui, dès lors qu'elle est volontaire, est en quelque sorte moins dépressive. Parce que ce qui est terrible dans la dépression, c'est qu'on maîtrise pas, évidemment, jusqu'où ça nous enfonce et dans quoi on sombre. Alors que là, on est dans une sorte de tristesse contrôlée, quoi. Et mais qui est intéressante parce que. Enfin, je pense que c'est un peu la même mélancolie, par exemple, que travaillent les musiciens romantiques, comme Chopin, par exemple, enfin qui nous fait entendre notre propre tristesse en y donnant une espèce d'accent suffisamment universel pour la rendre peut-être à la fois encore plus tragique, mais aussi plus en partage avec le reste de l'humanité. Donc là, il y a quelque chose de je crois vraiment important qui joue dans ce qu'on tisse avec ces musiques-là. Enfin, moi, quand j'écoute Schubert, par exemple, c'est typiquement ce que je vais rencontrer, c'est-à-dire une façon de rentrer en phase avec ce qui est à l'intérieur de la tristesse a une force de tragédie qui dépasse mon cas individuel.
Donc ça veut dire que cette idée de fabriquer, de produire de la musique volontairement triste, en tout cas qui rend triste, est-ce que c'est une idée de rythme aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être la musique dite joyeuse, elle a des rythmes plus forts et du coup la musique triste aurait des rythmes différents?
En général, quand on essaye de représenter la tristesse en musique, on va en effet choisir plutôt des tempos lents. Et puis on va un peu moins marquer les temps et donc il y aura moins de martialité rythmique, comme on peut en avoir dans les musiques joyeuses où là le tempo est très, enfin le rythme est très saccadé ou très exposé.
À quoi ça peut être, comment ça peut s'expliquer alors ce rythme de musique triste lent et ce rythme de musique joyeuse accélérée, est-ce qu'il y a un lien quelconque peut-être avec le rythme cardiaque?
Oui, alors ça, c'est vrai que on a associé ça, c'est-à-dire de se dire que quand on est excité, on a une pulsation cardiaque plus importante, alors que quand on est calme, effectivement, on a un rythme cardiaque plus modéré. Mais on peut quand même pas dire que quand on est calme, on est plus triste. On peut même être très stressé d'être triste. Et c'est intéressant parce que là, on touche à un point où la musique est censée rentrer dans une espèce de contrôle émotionnel. Alors, il y a tout ce mouvement de la cohérence cardiaque, par exemple, qui consiste à écouter une musique qui va à un certain tempo et qui va avoir le tempo qui décroît et qui, ce faisant, est censé nous calmer par un jeu de, on pourrait dire, de biofeedback. Mais c'est un mot bien moderne pour désigner quelque chose qui avait déjà été repéré par un compositeur d'opéra comique qui s'appelait Grétry au XVIIIe siècle et qui, quand il trouvait que ses compagnons de marche, quand ils allaient en promenade dans les jardins, allaient trop vite pour ralentir leur cadence, il se mettait à chanter un petit air à la cadence à laquelle il marchait et à ralentir l'air. Donc là, il faisait un usage manipulateur de fait de la musique qui consistait à essayer de ralentir le pas de ses amis.
Je crois que tu as prévu un extrait justement de musique triste, entre guillemets. C'est quoi?
Oui, alors c'est un air de fado, tout simplement, parce que je trouve que c'est une musique tout à fait emblématique, avec cette histoire de saudade, d'une tristesse qui est convoquée à dessein dans l'espoir de rentrer dedans suffisamment à fond pour quelque part s'en sortir, quoi, comme si on cherchait dans ce genre de musique à toucher le fond.
Bon, alors on va toucher le fond avec une artiste qui s'appelle Amalia Rodriguez, il me semble.
Absolument.
Nasceu dia quando o vento mal volia e o céu mar prolongava. Namorada de veleiro no peito do marinheiro que está estando triste, cantava. chão, no monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal. Na boca de um marinheiro, do frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada.
Voilà, on vient d'écouter un extrait de Fado, Amalia Rodriguez. Donc là, musique où on écouterait justement pour se dépasser sa tristesse. Donc est-ce qu'on peut dire là que la musique a un effet thérapeutique ? Parce que ça, la musicothérapie, c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent.
Alors, ce qui est intéressant justement, c'est que par rapport à ce qu'on disait sur les musiques joyeuses tout à l'heure, là on ne vise pas quelque chose de complètement automatique. C'est comme si on était dans un travail sur soi au contact d'une musique qui va nous aider à être une sorte de support, de travail de son émotion. Et le fait est que la musicothérapie va être dans cette logique-là, c'est-à-dire non pas prendre une musique pour infliger en quelque sorte une humeur à un patient, qui serait une espèce de fausse musicothérapie simplement médicamenteuse, enfin qui remplacerait des médicaments par de la musique, ce qui est absolument pas ce que fait la musicothérapie. Il faut vraiment toujours rappeler que les démarches de musicothérapie reposent sur une logique à trois termes, c'est-à-dire il y a effectivement le patient, il y a le thérapeute, c'est d'abord ce couple-là, et la musique va être un vecteur pour en fait être enfin une espèce de à l'intérieur de ce qui reste une psychothérapie, donc un accompagnement vers un mieux-être et qui prend le détour de la musique et du dialogue autour de la musique pour se faire. Mais il faut bien dire aussi que la preuve que la musicothérapie n'utilise pas le pouvoir émotionnel de la musique de façon automatisée, c'est que en général, quand on lance une cure en musicothérapie, on va commencer par faire ce que on a appelé le bilan psychomusical du patient, c'est-à-dire de voir où il en est de ses émotions par rapport à tel ou tel type de répertoire. Autant dire que quelqu'un qui écoute par exemple que de la musique métal, on va évidemment pas faire une cure à partir de musique hawaïenne par exemple, ou alors c'est justement pour travailler son rapport à l'exotisme ou à l'altérité, enfin c'est pas exclu, mais je veux dire que ça va être fait de façon très, très pensée. C'est pas juste d'aller chercher dans la pharmacie à musique tel morceau pour lui mettre telle émotion à la tête.
Alors il y a aussi l'idée de somnifère musical, parce que tout à l'heure il était question donc des bouts de playlist où l'idée c'est souvent quand même d'être plus heureux, d'être plus efficace, et donc là il y a aussi beaucoup de choses pour dormir.
Oui, alors c'est, en fait, on retrouve le même problème qu'avec la musicothérapie. Enfin, je veux dire le même fantasme potentiellement d'avoir un rapport un peu on/off avec l'effet que la musique produit. Je repense toujours à l'exemple du musée d'ethnographie de Genève qui a publié un disque de berceuse du monde. Et la commissaire d'exposition qui avait fait cette compilation avait donné la compilation à certaines de ses amies, et elle raconte que certaines de ses amies sont venues la voir après en lui disant mais ça marche pas, ça m'endort pas du tout et ça résout pas mes problèmes d'insomnie. Et donc la commissaire de l'exposition qui a donné lieu à cette compilation a dit bah oui, mais il manque la maman. C'est-à-dire qu'une berceuse, elle endort à l'intérieur d'un jeu relationnel qui là encore se passe à trois, c'est-à-dire il y a un bébé, il y a une berceuse, mais il y a la maman qui fait que la berceuse va participer, à aider potentiellement à l'endormissement. Et alors, il y a quand même, à propos de la berceuse, justement, quand même l'idée que ça pourrait être on/off, donc on est tenté de faire des compilations de musique qui endorment, qui auraient le modèle formel des berceuses, parce que on a l'impression que les berceuses sont à peu près toutes les mêmes tout autour du monde, c'est-à-dire sont toujours un balancement, toujours lent, toujours avec des ambitus harmoniques assez restreints pour pas créer la torpeur d'un grand intervalle ou des choses comme ça. Ce qui est vrai et pas vrai, au sens où on a quelques exceptions, notamment les pygmées en Centrafrique chantent les berceuses de façon assez bruyante. C'est les hommes et non pas les mères qui bercent les bébés, et dans un bercement qui est assez assez remuant et assez dynamique. Et en fait, ce que des ethnologues ont pu dire, c'est que cette façon de faire berceuse est une façon qui vise une espèce de saturation sensorielle du bébé, qui serait comme hébété d'être aussi remué, aussi rempli de choses qui se passent, et que ça l'amènerait à trouver le sommeil aussi.
Et alors, s'il y a des musicaments, est-ce qu'on peut supposer qu'il y a aussi des effets secondaires? Est-ce qu'on peut abuser des bonnes choses?
Moi, je crois que s'il y a des musicaments, ils sont tous de l'ordre de l'effet placebo. C'est-à-dire, ils ne font pas l'économie d'une autosuggestion. Et c'est par l'autosuggestion qu'il y a une efficacité réelle prendre telle musique pour se concentrer, ou telle musique pour ceci, ou telle musique pour cela. Mais je veux dire, ça passe toujours par une sorte, soit-elle plus ou moins consciente, mais une sorte de délibération avec soi-même de ce qu'on fait au contact de telle œuvre. Parce que telle œuvre, toute seule, elle ne le fait pas. Ça ne peut pas être aussi automatique que ça. Donc, les effets secondaires... Après, on pourrait. C'est pour ça que le dernier chapitre du livre s'appelle les méfaits de la musique. Enfin, non, c'est pas intitulé comme ça, mais c'est les bienfaits maléfiques. Oui, voilà. C'est-à-dire l'idée que la musique puisse faire du mal. Oui, ça, il y a aussi cette idée-là.
Et alors, ce serait quoi, par exemple, un excès de basse fréquence?
Oui, qui serait censé pouvoir nous rendre fous, ou bien ne pas pouvoir arrêter la musique. Effectivement, il y avait eu cette expérience sur une militante d'Action Directe qui, quand elle avait été emprisonnée à Fresnes, avait subi la torture qu'on lui mette dans sa cellule une radio cassée qu'elle ne pouvait pas éteindre. Donc, effectivement, être exposé à de la musique sans le vouloir, sans y consentir, et dans une durée qu'on ne maîtrise pas, ça peut rendre fou.
Bon, on va essayer de ne pas le devenir tout de suite. Mais je vous propose qu'on écoute justement un extrait de ce fabuleuse compilation de berceuses dont tu parlais tout à l'heure. Donc, c'est laquelle as-tu choisi?
Alors, c'est pas extrait de la compilation en question, mais c'est
autant pour moi.
Oui, c'est une version de Douce Nuit chantée en Inuktitut. Donc, on soupçonne que c'est dans cette version que les Inuits entendent la berceuse, qui a un peu plus de 200 ans, puisqu'elle a été composée au début du 19e siècle.
Come and now, now me.
Donc on vient d'écouter cette douce nuit en version Inuktitut. Merci David pour cette écoute. Et alors je crois que on est parti quand même de la classification avec Rossini, mais de nos jours il y a de nouveaux formats, en fait, de nouvelles choses qui permettent de s'intéresser à cette médication par la musique. Il y a même des applications smartphone voilà, qui ont cet objectif, je crois. Donc, il y en a une qui s'appelle Music Care. Alors, c'est quoi?
Alors, c'est pas une application smartphone. Music Care, ça, c'est un dispositif qui a été développé par Stéphane Guettin, qui a des résultats tout à fait robustes scientifiquement, qui, en fait, reprend en charge. Ah, il existe une version smartphone, mais je ne suis pas sûr
si c'est
la même chose.
Eh bien, oui, je ne sais pas si c'est la même chose.
Non,
mais
je ne suis pas sûr. Il faudrait vérifier. Voilà,
faudrait vérifier. Ouais. Pardon, excusez-nous, okay, chers auditeurs.
Non, je ne savais pas qu'il l'avait développé. Hein. Mais je ne sais pas si c'est lui. Oui, bon, bref.
Enfin, bref, pardon.
Lui, ce qui, le cœur de son activité, c'est d'équiper les salles d'opération et puis aussi beaucoup de maisons de retraite et pour accompagner la relaxation en musique. Et il a quand même des résultats au sens où. Son travail, c'est d'essayer de, par la musique, diminuer la part d'anesthésie chimique dans les opérations. Alors, ça fait suite à une tradition finalement relativement ancienne, puisque c'est beaucoup dans la chirurgie dentaire dès la fin du 19e siècle qu'on a essayé de. Les dentistes ont été les premiers à mettre des photographes dans leur cabinet pour essayer de calmer la douleur par la présence de la musique. Et là où les résultats de Music Care sont. Assez intéressant, c'est que donc le principe est d'avoir une musique qui est construite en U, calquée sur la durée, par exemple, d'une opération chirurgicale, où au début on a de la musique assez toujours instrumentale pour pas qu'il y ait d'accroche avec la parole, et toujours relativement inconnue pour pas que l'attachement, par exemple, à tel ou tel morceau puisse créer un trop de concentration sur la musique qu'on entend. Et donc ça commence alors dans des thèmes autour de 80-90 avec par exemple 4-5 instruments qu'on entend dans un style musical qui est à peu près proche de la sensibilité du patient, donc ça va être soit classique, soit jazz par exemple, ou un peu plus rock, pour donner comme ça quelques grands marqueurs, et puis à un volume relativement modéré. Et en fait, toute la progression musicale en U qui va se faire le temps de l'opération, c'est que ça va descendre sur les trois paramètres. Ça va descendre en nombre d'instruments, descendre en volume et aussi descendre en... c'est quoi le troisième que j'ai cité, descendre en volume et descendre en tempo, donc c'est, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, comme Grétry, quoi, ça va aussi ralentir. Et il semble que les expériences menées par Stéphane Guettin, effectivement, permettent d'accompagner musicalement des anesthésies tout en diminuant la part chimique de ça. Donc c'est quand même très, très, très intéressant comme expérimentation.
Et alors, comment as-tu poursuivi le travail de ce livre? Je crois qu'il va être publié. Ça, c'est
il va reparaître en poche au printemps prochain, oui, auprès des universitaires de France.
Voilà, et donc ça, comment tu as continué ce travail-là depuis sa première publication?
Il sera republié en l'état, ce ne sera pas une édition augmentée, mais moi j'ai continué à réfléchir en publiant un certain nombre d'articles, notamment sur les rapports entre la musique et le développement personnel, par rapport à ce qu'on a pu dire tout à l'heure. Donc il y a un article qui est paru notamment il y a quelques mois dans la revue Hermès. Et puis je réfléchis de plus en plus au rapport ambigu qu'on entretient, mais un peu sur le même modèle avec l'écologie sonore, c'est-à-dire de se laisser croire que d'écouter des chutes d'eau nous calme à tous les coups. Ça, je suis pas sûr que ce soit complètement vrai, et je suis pas sûr non plus que développer ce rapport au son soit comme par magie vertueux pour la planète en soi. C'est toutes ces espèces de raccourcis qui me posent vraiment question, et je trouve qu'il y a un discours dominant qui consiste à croire que si on se met dans une empathie d'écoute avec le monde naturel, ça, ce serait en soi faire du bien à la nature, ce qui me semble une espèce de naïveté compliquée à soutenir aujourd'hui, et qui plus est face au drame écologique dans lequel on est engagé.
On peut proposer à nos auditeurs, puisque cet enregistrement sera diffusé sur Radio Campus Tours à l'issue de la fête de la science, de faire un test. Donc on va vous proposer, chers auditeurs, d'écouter un extrait sonore que tu as choisi, David. Et donc, je crois que ce que tu voulais, c'était faire un test.
Oui, c'est-à-dire, justement, puisque le thème de la fête de la science est l'émotion, avoir une musique là et se demander à quelle émotion on l'associe. Bon. Ou qu'est-ce qu'on voit en l'écoutant, quoi.
Voilà, donc écoutons cet extrait. Donc, nous venons d'écouter un extrait sonore de ton choix, David. Alors, de quoi il s'agit ?
Il s'agit d'un extrait de la Turangalila Symphonie d'Olivier Messiaen. Et peut-être qu'on va sonder les émotions ressenties avant d'en tirer conclusion.
Voilà, on regarde les visages qui se trouvent face à nous dans cette salle avec ce nombreux auditoire. Et voilà, je vois des airs méditatifs, peut-être. En tout cas, ça donne pas l'impression d'écoute de Pharrell Williams. Tout à l'heure, on voyait les gens qui avaient l'air un peu plus réceptifs. Là, j'ai l'impression qu'il est...
C'est plus ambigu, peut-être.
Oui, peut-être.
Alors, en fait, j'ai choisi cette œuvre-là parce que il y a une expérience qui a été faite par la musicothérapeute Jacqueline Assabghi, qui a fait entendre cette œuvre-là à certains de ses patients. Donc, c'est un extrait de la Turangalila Symphonie qui s'appelle Le Jardin du Sommeil d'Amour. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a pu relever que la réaction de ses patients pouvait être complètement antagoniste. Il y a un de ces patients qui a décrit en entendant la musique qu'on vient d'entendre, j'étais sur un rocking chair, bercé par des bruits de nature où se mêlaient des chants d'oiseaux, par moments les notes aiguës étaient lancinantes, mais à la fin j'aurais pu m'endormir, donc faisait la description d'une musique tout à fait apaisante, alors que un second patient a exprimé un ressenti pratiquement inverse en disant cette musique m'a angoissé, c'est du fantastique, j'ai horreur du fantastique, un robinet qui goûte, le temps qui passe, inexorable, et donc qui projetait derrière ce temps inexorable quelque chose de, il le dit, hein, vraiment angoissant. Et donc moi ce qui m'intéressait donc à faire cette petite expérience, c'est de se dire qu'avec la même musique, on peut avoir des ressentis inverse et opposé, ce qui serait une manière de prouver que la musique n'a pas d'effet complètement automatique.
David, alors pour conclure, puisqu'on va revenir à notre question de départ, est-ce que la musique et émotion, alors qu'est-ce que tu conclus de cet échange si tu dois résumer ?
C'est variable. En effet, en revanche, c'est de fait, parce que finalement, ça peut être ça, la conclusion, c'est-à-dire que la musique reste un bon partenaire pour développer un rapport réflexif à ses émotions. Mais réflexif, ça ne doit pas vouloir dire normatif, et ça ne doit pas vouloir dire effectivement instrumentaliser la musique à tous les coups. Et le fait est que il faut se débrouiller pour que la musique puisse continuer à nous surprendre, y compris puisse continuer à ne pas nous émouvoir, parce que c'est possible et c'est pas grave, et ça peut même faire autre chose que nous émouvoir, ça peut nous faire réfléchir, ça peut nous faire avancer autrement.
Alors pour nos auditeurs curieux, voilà, on a parlé d'un livre qui va être republié, La musique vous veut du bien. Est-ce que tu veux nous rappeler où on peut le trouver ? Tu as parlé aussi d'articles.
C'est aux éditions des Presses universitaires de France, et pour ce qui est des articles que j'ai publiés sur la question, je peux peut-être envoyer à mon site internet dcdb.fr. DCDB, ça veut dire David Christoffel Database.
Merci beaucoup David Christoffel pour cet échange. On se quitte en écoutant Amalia Rodriguez. Merci à tous.
Nasceu dia quando o vento mal colia e o céu mar prolongava. Namorada de veleiro no peito do marinheiro que está cantava. Que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas. Se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro, na boca de um marinheiro, no frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada, diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beija o ar e mais nada. Que beija o ar. Sentido que aqui te faço uma jura. tua sacristia. Ou foi Deus que foi servido da alma no mar sepultura? Loreis que embora outro dia, quando o vento na embolia e o céu mar prolongava, lá proa do outro veleiro velava outro marinheiro que estando triste cantava. Estando triste, cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê-se, vê. Terras de Espanha.